Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous n'allons pas pouvoir étudier en détail toute la vie et les actions de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous attacher à quelques points marquants, et aujourd'hui, nous allons contempler et profiter, faire des fruits de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, si tu entreprends de servir Dieu, prépare ton âme à la tentation, dit l'Écriture sainte, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans l'Ecclésiastique. La tentation par le démon n'a rien de surprenant ni d'indigne. Ce qui est indigne, c'est qu'elle trouve en nous une résonance. Elle n'a rien d'indigne, le diable tenta nos premiers parents, alors qu'ils vivaient dans la sainteté originelle. Nous voyons qu'il tente le Christ. Il tenta quasiment tous les saints. Bien plus, les tentations du diable s'acharnent surtout contre les sanctifiés. C'est un père de l'Église qui dit cela. Les tentations du diable s'acharnent surtout contre les sanctifiés, car c'est sur les saints qu'il désire le plus remporter la victoire. D'où cette parole de l'Ecclésiastique que je vous ai citée pour commencer. Mon fils, si tu entreprends de servir Dieu, prépare ton âme à la tentation. Nous allons voir dans le sermon, nous allons faire l'application non seulement à nos tentations à nous, comme on le fait très souvent, mais également aux tentations que subit l'Église. Et avant de contempler ce mystère de la tentation de notre Seigneur, je voudrais vous rappeler que les mystères du Christ sont nos mystères, et par conséquent, sa tentation est notre tentation. Et de même que les mystères du Christ sont les mystères de l'Église, sa tentation ou ses tentations sont les tentations de l'Église. Le Christ est tenté pour nous fournir un secours contre la tentation, c'est-à-dire pour nous gagner des grâces. Saint Augustin nous dit « Il est le médiateur qui nous fera surmonter nos tentations par son aide. » Et par conséquent, notre Seigneur, s'il est tenté, n'a pas seulement voulu nous donner un exemple, comme si, encore une fois, il s'agissait ou il s'était agi d'une chose totalement inutile pour lui, voire même inconvenante pour lui, mais qu'il accepta de subir pour uniquement nous montrer comment faire. Il est allé beaucoup plus loin. Il a vécu cette tentation en prenant sa part de nos luttes et des luttes de l'Église, et du moment que nous, en retour, en réponse, nous unissons nos propres tentations aux siennes, alors elles deviennent bonnes et fructueuses. Et je mesure mes paroles, bonnes et fructueuses. Monseigneur Williamson a publié un commentaire Leison sur Et nenos inducas in tentationem, ne nous soumet pas à la tentation. D'habitude, on répond à l'objection que Dieu ne tente pas pour le mal en disant mais Dieu ne tente pas directement. C'est pourquoi on a préféré traduire « Ne nous laissez pas succomber à la tentation » plutôt que « Ne nous induit pas » ou « Ne nous soumet pas à la tentation ». Monseigneur Williamson, beaucoup plus proche du texte, dit « Non, ne nous fait pas entrer en tentation », ça veut dire « Ne nous soumet pas à la tentation ». Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a dans la tentation deux choses, une chose qui est bonne, à savoir qu'elle fait des preuves, Elle est une lutte, elle est un combat. Et saint Paul, très souvent, nous parle du combat chrétien. Ce qui est mauvais, c'est l'incitation au mal, et c'est évident que Dieu n'incite jamais au mal. C'est-à-dire que Dieu n'agit jamais comme Satan. Mais remarquez, notre Seigneur est conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. C'est l'Écriture sainte qui le dit. Le Saint-Esprit conduit notre Seigneur au désert pour y être tenté. Il y a dans la tentation une part qui vient de Dieu, qui est bonne, qui est fructueuse, à savoir de participer à la lutte. Et il y a évidemment une part qui vient du démon, qui est de suggérer le mal. Quels sont les genres de tentations auxquelles notre Seigneur est soumis? Voici ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Le diable commence par tenter l'homme spirituel en lui proposant non des péchés graves, mais des péchés légers. Je m'adresse surtout à vous, mes bien chers frères, que je classe dans la catégorie des hommes spirituels, parce que je pense que sinon vous ne m'écouteriez pas. Il est possible qu'il y ait parmi vous des ivrognes, des adultères, peut-être même des hérétiques. Enfin, je pense que s'ils m'écoutent, c'est au moins qu'ils ont envie de sortir de leur ivrognerie, de sortir de leur état d'adultère, de sortir de leur hérésie, etc. Parce que, il faut se rappeler l'enseignement de saint Ignace, lorsque quelqu'un se vautre dans le péché, le démon n'a pas intérêt à se montrer, à se manifester, ni même à intervenir de façon trop nette. Il a affaire à quelqu'un qui se damne tranquillement, et le démon le laisse se damner. Avec ces gens-là, au contraire, Dieu secoue, Dieu provoque, Dieu éprouve, Dieu envoie des épreuves qui justement vont réveiller. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire remarquer qu'il faut traiter les tièdes et qu'il faut mettre les tièdes dans la même catégorie que les grands pécheurs. Parce qu'un tiède, c'est un chrétien qui s'endort et le démon n'a pas intérêt à réveiller un chrétien qui s'endort, même pour lui faire commettre de gros péchés. Ces gros péchés pour le réveiller. Le chrétien qui s'endort, c'est le tiède, c'est le libéral, vous voyez, qui ne se rend plus compte qu'il ne monte pas vers Dieu, mais même si la pente n'est pas forte, qu'il descend tranquillement. Envers les hommes spirituels, c'est l'inverse. L'homme spirituel, l'homme qui cherche à aimer Dieu, l'homme qui va de progrès en progrès, le démon n'a pas intérêt à laisser faire la chose, parce que sinon, cet homme est perdu pour lui. Il a donc intérêt à le secouer, à l'ébranler, à l'inquiéter. Bon, mais il ne peut pas le faire n'importe comment, et nous allons voir comment il le fait. Par contre, toujours pour l'homme qui va de bien en mieux et de progrès en progrès, le bon Dieu rassure, y compris dans les tentations, et rappelle l'exemple du Christ, d'une part, la miséricorde du Christ, d'autre part, la puissance de la grâce, l'intercession de la Sainte Vierge, etc. Donc venons-en aux tentations de notre Seigneur, qui sont les tentations des chrétiens, disons des bons chrétiens, et nous allons le voir qui sont les tentations de l'Église. Le diable commence donc, dit saint Thomas, par tenter l'homme spirituel en lui proposant non des péchés graves, mais des péchés légers, parce que sinon ça ne marcherait pas, à partir desquels il le conduira à des péchés plus graves. Voilà pourquoi le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, au début, à la deuxième tentation, encore une fois, si tu es le Fils de Dieu, et à la troisième tentation, il ne le dit plus, puisqu'il propose, les deux premières tentations ayant échoué, il joue son va-tout, et il propose une bonne grosse tentation, qui celle-ci ne convient plus aux hommes spirituels. La première tentation, vous le constatez, mes bien chers frères, donc notre Seigneur vient de jeûner, il a faim, le diable lui apparaît en lui disant, puisque tu as faim, dis à ces pierres de se changer en pain. C'est une tentation sous apparence de bien. Sous apparence de bien, parce qu'il est normal, une fois qu'on a fini le jeûne, de vouloir manger, sustenter son corps pour servir Dieu, tout simplement. Et notre Seigneur a toute puissance pour faire des miracles. Par conséquent, ça semble être quelque chose de tout à fait raisonnable. La tentation est dans le fait que c'est raisonnable de faire un miracle pour créer du pain lorsque les foules suivent notre Seigneur dans le désert, parce que ça ne serait pas raisonnable de les renvoyer alors que justement elles doivent écouter sa prédication, et puis parce que la multiplication des pains va être l'occasion d'annoncer déjà la Sainte Communion. Là, dans le désert, notre Seigneur étant tout seul, ça n'est pas raisonnable, parce qu'il a bien d'autres moyens d'obtenir du pain. Cette première tentation ayant échoué, le diable en essaye une deuxième, qui est celle de la vaine gloire, c'est-à-dire des choses qui ne servent à rien. Simplement, ça fait plaisir, c'est de la présomption. Il le met sur le haut du temple, sur le pinacle du temple, et il dit à notre Seigneur, « Bien, jette-toi en bas, il est écrit dans l'Écriture sainte, « Les anges te porteront afin que ton pied ne heurte pas. » Et notre Seigneur lui dit, « Arrière Satan, il est également écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et la troisième tentation, il l'emmène sur une haute montagne, il lui présente tous les royaumes de la terre, enfin il lui désigne tous les royaumes de la terre. Il est évident qu'à 700 mètres d'altitude, comme c'est le cas en Palestine, on ne voit pas toute la terre. Et il lui dit, mais tout ça je te le donnerai. À une condition, c'est que tu te prosternes et que tu m'adores. On peut résumer toutes ces tentations par cette progression. Premièrement, les sens, la sensibilité. Deuxièmement, la vaine gloire. Troisièmement, l'orgueil. Vous reconnaissez là la description faite par saint Ignace dans les deux étendards. Je vous en ai déjà parlé. Faisons maintenant les applications à nous-mêmes. Ce ne sera pas très long. Je vous ai parlé des deux étendards, il n'y a qu'à s'y reporter. Je voudrais aujourd'hui m'étendre un peu plus sur les tentations de l'Église. Parce que vous comprenez bien, mes bien chers frères, que si la tentation est normale, parce que le démon est furieux, si elle est normale, et elle l'est, parce que le Saint-Esprit conduit le Christ au désert pour y être tenté. Il est évident que la tentation de l'Église est normale et que le Saint-Esprit conduit l'Église pour être tenté. Et donc les épreuves de l'Église, les épreuves d'aujourd'hui, ce qu'on appelle abusivement la crise de l'Église. Je vous ai fait un sermon déjà pour dire que dans la crise de l'Église, tout est faux. c'est pas là parce que c'est pas, il y en a eu plusieurs, c'est pas une crise parce que c'est une épreuve, et c'est pas une crise de l'Église, mais c'est une tentation, une épreuve, voyez, qui tombe sur l'Église. L'Église elle-même est sainte. Justement, elle est comme notre Seigneur, il n'y a pas en elle de résonance du mal, d'accointance au mal. Il est donc évident que le Saint-Esprit guide l'Église pour être tentée. Il va donc y avoir les trois niveaux de tentation. D'une part, les richesses. Je n'insisterai pas trop dessus. C'est la première. Ce n'est pas la plus grave, mais c'est celle qui habitue à ne plus considérer avec sérieux les choses de Dieu. Il y a des périodes où l'Église a été tentée par les richesses et où les hommes d'Église sont tombés, hélas, dans la tentation. Il est une évidence qu'aujourd'hui, l'Église est également tentée par les richesses, tout le développement moderne des moyens matériels. Je passe rapidement sur la tentation de vaine gloire et j'en arrive à la troisième tentation, qui est une tentation vulgaire. Je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes et tu m'adores. C'est une tentation grossière, vulgaire. C'est une tentation qui est tellement infecte que là, notre Seigneur se fâche. Arrière, Satan. C'est exactement ce que Satan a dit à l'Église dans les temps modernes, alors que l'Église a toujours créé la chrétienté. Satan lui dit, tu vois tous ces royaumes de la terre, eh bien c'est moi qui te les donnerai. Il ne dit pas c'est le Christ, il dit c'est moi qui te les donnerai. Et je te les donnerai si tu te prosternes et tu m'adores. Et remarquez qu'il y a un avilissement de celui qui est tenté s'il cède. Le démon ne lui dit pas seulement si tu m'adores, il lui dit si tu te prosternes et tu m'adores. Eh bien, les hommes d'Église, dans le monde moderne, ont cédé à la tentation. Ils ont voulu avoir les royaumes du monde, non pas le royaume de Dieu. L'Église a toujours voulu le royaume de Dieu, et ça c'est une bonne chose, c'est la chrétienté. Elle a voulu les royaumes du monde avec leur gloire. Et pour cela, elle s'est abaissée, elle s'est prosternée, elle s'est avilie. Elle a cherché à plaire au monde. Elle a changé sa liturgie. Elle est devenue vulgaire. Le pape actuel, hélas, s'abaisse, s'humilie à un point qui est tel qu'on se dit que cela ne vient pas que de lui. On le lui demande. Et non seulement elle s'abaisse et elle s'humilie, mais elle adore. Et ça, c'est tout le Concile Vatican II. La dignité de l'homme. Gaudium et spes. La dignité de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme transforme le monde. Et la dignité de l'homme dans la liberté humaine. C'est à l'homme de voir comment il atteint sa perfection. On doit le laisser libre. Non. La liberté porte sur les moyens pour arriver à faire régner Dieu. La liberté n'est pas un absolu comme l'enseigne le Concile. Et comment notre Seigneur réagit-il contre cette tentation? Il ne réagit pas avec puissance lorsque lui-même est tenté, mais il souffre de la part du démon et de ses membres, de façon, nous dit saint Augustin, à vaincre non par la puissance de Dieu, mais par la justice. Et ces tentations, le Christ les repousse par des textes de la loi et non par la puissance divine. Premièrement, pour honorer davantage l'homme, parce que là est le véritable honneur de l'homme. Mettre à l'honneur l'homme qui s'appuie sur Dieu. Et cela punit d'autant plus l'adversaire qui est humilié d'être vaincu par des forces humaines qui s'appuient sur Dieu, bien entendu. mais pas vaincu par des anges, ni même par l'éclat de la majesté divine comme au mont Sinaï. Ça n'a rien à voir avec le mont Sinaï lorsque Dieu se fâche après l'épisode du veau d'or. Eh bien, c'est la même chose dans les épreuves actuelles de l'Église. Dieu ne se fâche pas comme au mont Sinaï. Il n'écrase pas Rome. Il n'écrase pas le pape. Il ne cherche pas même à montrer sa puissance divine. Il vint avec la justice, c'est-à-dire avec la vertu, c'est-à-dire avec la force des humbles. Il vaincra avec la Sainte Vierge, il vint avec les fidèles qui vivent de la foi, de l'espérance et de la charité. Il vint par ceux qui sont méprisés du monde. Rappelez-vous les deux étendards, l'amour des opprobres. C'est cela qu'il faut inculquer à l'Église. C'est cela que Mgr Lefebvre a cherché à inculquer aux papes et aux évêques. Ce triomphe sur le monde par la croix. Ce n'est pas en se soumettant soi-même à la tentation, parce qu'on se soumet à ceux qui ont déjà courbé, qui se sont prosternés. Lorsqu'on fait un accord avec le pape qui se prosterne, ça veut dire qu'on se prosterne soi-même, comme un serviteur qui se prosterne avec son maître. Non. C'est en rappelant au maître la leçon évangélique. Et pour vous, mes bien chers frères, je voudrais que ce sermon vous rassure. Parce que vous pourriez être inquiétés certaines fois que le bon Dieu laisse faire cette longue épreuve. Comme vous pourriez être inquiétés que le bon Dieu ait laissé le Christ être tenté. Vous pourriez oublier que le Saint-Esprit guide l'Église non pas seulement d'une façon générale, mais également comme le Christ, comme il a guidé le Christ, pour être tenté. Vous pourriez être troublé que le Christ ne manifeste pas sa puissance et sa gloire, que Dieu n'envoie pas le tonnerre du ciel. Eh bien, c'est normal. Et cette épreuve durera le temps qu'il faut pour que le démon soit définitivement vaincu par l'humilité. L'humilité du Fils de Dieu, l'humilité des bons chrétiens. Le bon Dieu prendra son temps, mais il veut obtenir sa victoire à lui, et sa victoire à lui, c'est que les hommes redeviennent humbles, qu'ils lâchent le démon, qu'ils rentrent dans l'humilité du Christ, qu'ils viennent au prier de la croix, qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu tort de vouloir eux aussi chercher la gloire du monde en se prosternant devant Satan. Et voilà pourquoi je vous disais, mes bien chers frères, non seulement nos tentations, mais les tentations de l'Église seront bonnes et fructueuses si elles sont unies aux tentations du Christ. Et voilà pourquoi il faut admirer la sagesse de Dieu qui nous met dans cette situation. Et je vais même oser vous dire, il faut aimer cette situation qui va permettre par la tentation, un grand éclat de victoire, de la vertu, de la croix, de l'humilité, de la Sainte Vierge, du Fils de Dieu incarné. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.